Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net, partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 28, avec autour de la table pour nous accompagner notre bande de chroniqueurs. Et on va commencer par toi, mon Jean-Marc.
Salut, salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et un salut particulier à JC, JB et Grégor qui ont changé mon quotidien.
Eh ben, on les embrasse. Et puis à côté de toi, c'est Jérém. Salut, comment tu vas bien ?
Bonsoir, bonsoir. Je vais très très bien. Et vous ?
On va super bien avec toi. À côté de toi, c'est Charles.
Salut à toutes, salut à tous. Merci d'être là. Et puis, au plaisir de passer une bonne émission avec vous pour débriefer de l'actualité très riche.
Et puis, on n'oublie pas Fabrice.
Salut à toutes, salut à tous et bonne émission.
Alors, au programme de cette émission, on va commencer, on va revenir sur la saison de sport d'hiver, ça sera le bilan puisque c'est terminé, la neige disparaît et notre rubrique aussi. Dans la foulée, on parlera de cyclisme avec les classiques du printemps qui ont démarré. On parlera bien sûr du crunch et du tournoi destination qui a été réussi par le 15 de France. Dans la rubrique multizone, bien sûr, on reviendra sur le tennis, le golf, on vous donnera des nouvelles de Paul Barjon, bien sûr, et les résultats des clubs nantais. Aussi, allez, on est parti pour cette émission avec... On est parti avec ça.
Pendant ce temps-là, Marta Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Champion, champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et on va commencer avec toi Jean-Marc, ces bilans avec bien sûr le biathlon, c'était la dernière étape de la Coupe du Monde à Holmenkollen en Norvège. On parle des filles avec cette belle victoire pour Justine Brezaz sur la Mastart.
Exactement, Oslo Holmenkollen, neige de printemps hein, là-bas, il faisait très très bon. Et je pensais à un truc juste avant, il faudra qu'on change le générique. On va passer à Quentin.
Ah ouais.
Et du coup, oui, très belle course. Alors, c'était la dernière de la saison. C'était la Mastart. Et toi qui l'as suivi, Charles, parle-moi-en.
Ah bah là, donc on est sur une dernière étape très finalement très intéressante avec une étape finalement un week-end royal, sprint, poursuite, Mastart. Et on a eu le droit encore une fois à du très très bon encore une fois. Français avec notamment forcément Quentin Fillon-Maillet qui avec deux deuxièmes places sur le sprint et poursuite. Encore une fois, il est sur le podium, c'est le patron. Il a dû faire face malheureusement à un grand Sturla Holm Laegrid sur ce week-end qui remporte notamment le sprint et qui fait troisième de la poursuite. Et un Eric Lesser qui pour son dernier week-end de Coupe du Monde.
Bravo monsieur Lesser.
Revigorant.
Big up à lui.
C'est incroyable. Hein, il a annoncé début de saison, enfin cette saison, qu'il allait, que c'était sa dernière, et puis le voir finalement faire ce qu'il fait sur ses trois, mentalement avec un podium notamment aussi à Kontiolahti, donc c'était il y a pas longtemps, hein, c'était l'avant-dernière, juste avant Otepää. Et puis là, faire terminer sur une victoire sur la poursuite, c'est magnifique pour lui. Et puis il y a un nouveau Français encore une fois sur le podium de la Mastart avec Emilien Jacquelin qui finit en beauté cette saison. Une troisième place, très probable une troisième place. Derrière notamment un Sivert Guttorm Bakken qui a été 23 ans que 23 ans et déjà vainqueur d'une Mastart. C'est impressionnant le Norvégien qui du coup finit en grande pompe cette année pour lui et ça annonce du très lourd pour la Norvège.
Trois Français sont les premiers quand même, c'est pas mal.
Ouais, mais voilà, on va parler maintenant, on a forcément les résultats finaux des classements. On le savait déjà que forcément notre Quentin Fillon national
allait tout rafler, presque. Hein.
Ou presque, parce que finalement il manquait sur cette dernière Mastart de savoir s'il allait remporter le classement donc, du Petit Globe, mais malheureusement il ne l'emporte pas et c'est du coup Sivert Bakken qui remporte ce Globe avec sa victoire et malheureusement la 7ème place de Quentin Fillon-Maillet cette Mastart.
Pour Quentin, ça sera un gros Globe et deux petits. Les Globes du sprint et de la poursuite. À rajouter à ça, ses 5 médailles olympiques, saison parfaite. Il est le grand artisan de cette saison et le grand favori pour l'année prochaine, sans nul doute. Non mais,
voilà, c'est surtout que lui, cette saison, c'est 8 victoires, 13 podiums. Derrière lui, les autres, c'est Laugrid, 2 victoires et Samuelsson, 2 victoires, avec 7 et 6 podiums respectivement. C'est pour montrer la réelle domination de Quentin Fillon-Maillet sur cette saison. Il a régné en maître et ça s'est montré, ça s'est vu tout au cours de la saison. Alors qu'on pensait plutôt pour potentiellement peut-être voir Johannes Bö, tout ça, mais lui s'est concentré sur les JO, qu'il a très bien réussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment impressionnant le niveau de Quentin Fillon-Maillet sur cette saison. On a vraiment un nouveau leader post Martin Fourcade.
Ouais, on n'oublie pas Jacquelin, 3e quand même du général.
Alors malheureusement, il finit 5e, juste à 2 points de Christiansen, 4e, et juste à même pas à 11 points de Samuelsson, 3e, donc il est vraiment tout proche. Hein. Malheureusement, ça s'est joué surtout sur le sprint et poursuite de ce week-end-là à Oslo, où malheureusement, il finit pas forcément très bien classé, ce qui fait qu'il a perdu un petit peu de terrain, et notamment aussi à Otepa, il avait déjà perdu un peu de terrain, donc c'est cool.
Et puis Emilien Jacquelin, qui nous devra un peu de revanche, parce qu'il est en demi-teinte depuis les JO, en fait.
C'est ça, effectivement. Même pendant les JO, on l'a vu pas forcément. C'est plutôt depuis février, fin janvier, début février, on l'a vu moins clinquant qu'en début de saison. Et c'est ce qui, malheureusement, alors qu'il était largement deuxième à un moment, et là malheureusement, c'est ce qu'il a un petit peu pêché. Mais bon, c'est pas très très grave. Il va revenir, hein, il est encore très jeune, hein, il a 25 ans, 26 ans, je crois, donc c'est encore très très jeune. Hein.
Bon, un qui a raccroché, c'est Simon Détieux.
C'est ce que j'allais dire.
Exactement.
Simon, ça sera sans doute Éric Perrault hein, qui sera dans l'équipe de France l'année prochaine.
Oui, hein. Oui, alors attends, parce que du coup, ça libère la place totalement à Antonin Quiconat. Et à Fabien Claude. L'équipe type, elle est basée comme ça. Éric Perrault sera le 5e, avec Émilien Jacquelin. Émilien Claude, 6e.
Exactement.
Et puis, on va partir là-dessus. Ça risque d'évoluer au cours de la saison, mais ce sera, à mon avis, l'idée de départ.
Mais Simon Détieux, qui notamment aura une saison plutôt une bonne saison, avec notamment une médaille olympique, avoir porté quand même le maillot jaune aussi, le maillot de leader de la Coupe du Monde en début de saison. Il a un podium cette saison, il a une victoire l'année dernière en Coupe du Monde,
il a bien terminé. Belle fin de carrière pour lui. Allez, on passe aux filles. Bon, pour les bilans, Justine Brezaz, championne olympique de la Mastart, et une victoire et le petit globe. C'est pas mal pour Justine.
C'est même excellent.
C'est un peu cherché toute la saison, mais au moins à partir des JO, elle a assuré son rang et l'année prochaine, elle sera vraiment à surveiller.
C'est ça, c'est excellent. Elle a surtout des temps de ski incroyables. Elle fait partie des meilleures skieuses, notamment avec Elvira Heuberg et Thierry Lecoff. On a eu une Justine qui, malheureusement, c'est surtout son tir où elle a finalement pêché. Et sur les skis, elle a montré que quand elle mettait le tir, forcément ça faisait des grandes courses et on l'a vu notamment sur cette victoire sur la dernière à Oslo avec une victoire sur la Mastart qui du coup lui permet d'aller chercher ce gros globe à condition qu'Elvira Heuberg, la Suédoise, ne finissait pas dans le top 4. Elle a fini 5e, dépassée par sa compatriote Mona Brorson enfin sur la ligne, donc c'est ce qui permet à Justine Brezaz d'obtenir ce petit globe et c'est une belle récompense au vu de sa saison notamment sur les Mastart.
Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est la petite déception, c'est Julia Simon blessée à Otepa et qui n'a pas pu montrer sa vitesse.
C'est ça,
sur ce week-end d'Oslo, Holmen Colony.
Le 8e.
Mais on a eu notamment une bonne aussi Anaïs Chevalier-Boucher qui a réalisé aussi un très bon week-end aussi.
Ouais, donc Anaïs Bescon qui prend sa retraite.
Malheureusement sur une fin de carrière un petit peu malheureusement.
Pas sa plus belle année.
Si je pense qu'elle avait la tête à autre chose en cette fin de saison et je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas.
Je crois que c'est surtout qu'elle a pas pu faire tout ce qu'elle aurait espéré aux Jeux Olympiques.
Elle a pas digéré peut-être aussi.
Donc elle a eu du mal à digérer tout ça. Elle a essayé de finir en beauté quand même. Hein. Elle a été propre, pas des grosses places. Mais voilà, elle tire sa révérence après 13 ans de carrière. Bravo à elle.
Ouais, et surtout, on aura, y a un bel avenir du côté féminin. Bon, Anne Chevalier, bon, qui est forcément un peu plus vieille, qui a plus l'expérience, avec Justine Breza, Julia Simon, Chloé Chevalier, qui font très bien, avec notamment une 10e place sur le sprint. Donc, elle monte vraiment bien en puissance. Pour la beauté qu'on a vue notamment à Antols.
Et Lou Jean Monod.
Et Lou Jean Monod, qui a remporté le classement IBU Junior. Mm-hmm. Si je crois bien.
C'est exactement ça.
Donc, c'est aussi, ça montre l'avenir qu'il y a dans cette équipe de France féminine, qui est vraiment très importante.
Ouais, ça repartira au mois de novembre 2022, en même temps que la Coupe du Monde. Allez, petit bilan alpin rapidement. Pinturo, zéro victoire cette saison. Saison très décevante hein, pour le tenant du titre du Gros Globe.
Une saison à oublier hein, complètement.
Au rayon des satisfactions, ça sera Clément Noël avec son titre olympique. La belle médaille de Johan Claret aussi aux Jeux Olympiques. Mmh. Hein, rappelons-le, il avait décroché l'argent à Pékin.
Sur la descente.
Et puis chez les filles, Tessa Worley qui conclut une nouvelle saison magnifiquement avec le globe du géant.
C'est ça, avec notamment, du coup, c'est ce globe-là sur le géant où finalement, au vu de le résultat finalement de la première manche où elle n'était pas forcément bien placée hein, sur ce slalom géant, finalement, sur la deuxième manche, elle se rattrape bien avec un très bon temps sur la deuxième manche. Et à ce moment-là, on voit quand même d'autres finalement la passer et notamment Mikaël Achifrin partir avec le dos, avec le entre guillemets dernière de sa manche 2 parce qu'elle avait fini première de la manche numéro 1, s'écrase complètement, se loupe complètement sur cette manche numéro 2 et laisse filer finalement ce globe qui lui est pourtant destiné, une grande favorite. Hein, elle a gagné le gros globe de la saison, Schifrin. Donc c'est finalement Worley finit quatrième de ce slalom géant et remporte quand même du coup ce petit globe et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir.
Ouais, et puis pour conclure, il y avait eu une victoire de Roman Miradoli aussi. Hein, c'était sa première en carrière. Voilà, là aussi, ça redémarre au mois de novembre.
Une bonne saison chez les femmes, quand même.
Ouais.
Et puis en bas, Périne Lafond.
Le gros globe pour Périne Lafond en boss. Et on n'oublie pas celui de Richard Jouve sur le sprint en ski de fond.
On a été gâté sur le ski cette saison.
Et ben voilà, ça c'est une rubrique qu'on va oublier et qui reviendra pour l'automne. Pour l'instant, voilà, les sports qui vont remplacer les sports d'hiver, c'est les sports médias et on en parle tout de suite dans Nitro.
Nitro, c'est toute l'actualité des sports mécaniques tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et un week-end doublement intéressant niveau sport méca, Fab, puisqu'on a eu droit au Grand Prix MotoGP d'Indonésie et au Grand Prix Formule 1 à Bahreïn.
Le Grand Prix de Sakhir.
Allez, on commence par la moto, Fab.
Eh oui, évidemment, avec la moto, voilà, sous la pluie à Singapour.
Jakarta.
C'était les moussons, c'est ça.
C'est les moussons, voilà. Et on, voilà, une bonne place de Quartararo. Deuxième place, il n'est pas très très à l'aise sur la pluie.
C'est ce qu'on disait, mais
c'est là, du coup, pas le. Et là, il est content de lui parce que franchement, il a.
Il fait pas forcément bon départ. On le voit, il est rapidement.
Pour un
dépassé.
Type qui a la pole, ouais, il se retrouve vite dans le peloton cinquième.
Sixième, hein. C'est ça. Hein,
tu vois qu'il a un problème de pneumatique au départ, et il s'échauffe mal et il arrive à revenir et finir
pleine bourre à doubler tout le monde.
Il rattrape notre ami.
Je pense même qu'il aurait eu deux tours de plus, il finissait premier.
Alors peut-être pas quand même. Il aurait fallu peut-être 5 tours de plus. À mon avis, quand même, parce que Miguel Oliveira préserver ses pneus quand même. Enfin, on sentait qu'il avait de la ressource, Miguel Oliveira, qui gérait quand même plus.
Charles, de toute façon, la MotoGP, là, c'est un peu comme la Formule 1 en ce moment, c'est les problèmes de pneumatique. Ils ont tous des problèmes de pneumatique, on l'a vu au Grand Prix, on en parle tout à l'heure, mais ils ont tous des problèmes de pneumatique. Alors, ces changements de pneus et qui sont hard, medium, et ils ont le même problème en moto. Et il l'a dit toute la course. J'ai des problèmes de pneus, ça va pas, je peux pas revenir, je peux pas attaquer, je peux pas. Et voilà, bon, il finit deuxième, Sarko troisième.
Double podium, ça fait plaisir.
C'est pas mal.
Ah bah oui.
C'est pas mal.
Bah surtout moi, que la note... concurrence, si on regarde par exemple Bagnaia. Hein,
oui, et voilà. Moi surtout.
15e avec un point, 0 au premier Grand Prix, c'est un rival qui est déjà très loin. Hein.
Voilà, et moi ce que je note, c'est la chute de Marquez.
Marquez,
à 180 km/h, il a fait un vol plané.
Un highside, il était à 3 mètres de haut quasiment. Impressionnant.
Impressionnant. Bon, là, c'est
il n'a pas fait le Grand Prix du coup.
Traumatisme ukrainien.
Non, mais là...
Donc là, il est encore écarté des circuits pendant un bout de temps.
Ah oui, ouais, mais là, c'est
coup dur, hein.
coup dur pour Marc Marquez, hein, qui essaye de revenir depuis sa blessure à Jerez en 2020.
Bon, qui sera le rival de Fabio cette année
Pour moi, Sarko, Oliveira.
Non.
Rins.
Moi, je vois plutôt cette année quand même un Jorge Martin que je vois très très fort, notamment chez le
problème. Bon, il est tombé.
Alors, effectivement, il est tombé, mais quand on a vu son niveau, notamment sur le premier Grand Prix et tout, c'est sa pole, notamment à Doha. Moi, je vois bien Jorge Martin. Bagnaia se remettra forcément dans le coup un moment.
Il va falloir les Yamaha. Il faudra faire gaffe aux Yamaha. Morbidelli et tout, il faudra faire gaffe.
Parce que les Yamaha, c'est quand même encore sous-estimé. Et ce qu'a fait Quartararo.
C'est le 47 de toute la team Valentino Rossi. Attention, ces mecs-là.
Les Suzuki seront toujours présents, très réguliers.
Évidemment.
Les Suzuki. Et puis pourquoi pas un petit Enea Bastianini, le sophomore italien de Team Grésigny,
comme l'a dit,
qui avait remporté le premier Grand Prix.
Comme l'a dit Mathieu, voilà,
ça va être très dense,
là,
très dense.
Mais il va être là. Ouais.
Mais le favori reste quand même Fabio Quartararo. On le voit encore sur ses deux premiers Grands Prix où il arrive à gérer. Encore une fois, à toujours prendre les bons résultats, ne pas chuter, à faire des remontées spectaculaires, être encore plus incisif que l'année dernière, je pense. Ça, encore meilleur sous la pluie. Enfin,
et ça, y a un
Fabio,
numéro 1. Incisif quand on voit son déplacement contre Zarco à la limite de toucher la roue sous la flotte en plein virage.
Très incisif. Il y a un gros freineur. Manque juste. En fait, le problème, c'est peut-être un poil sa moto sur les vitesses de pointe. Mais hormis ça, je pense que ça va être le numéro 1. Il y a de très fortes chances de penser qu'il puisse renouveler.
Rinsmir derrière les Suzuki.
Ouais, les Suzuki se doivent derrière, mais les Ducati, ça dépendra du niveau.
Mais toutes les machines peuvent gagner des courses cette année.
Ouais,
on le voit. Hein, ça avait commencé avec.
Il est ouvert.
C'est très un championnat très ouvert.
Ça avait commencé avec Bastianini.
À mon avis, ça, c'est la course au vainqueur du championnat du monde sera celui qui sera le plus régulier. Ouais. Et à ce compte-là, je pense que Fabio, malheureusement aussi, sera le plus régulier.
Qui avait coûté le titre à Quartararo il y a 3 ans.
Ah ben totalement.
Où il était, il avait gagné 3 Grands Prix, 4 Grands Prix, je crois. Et puis après, c'était, il est fini 8e, 10e.
C'est ça.
Alors que Mir, il était
toujours 2e,
3e, toujours.
Ouais, toujours bien placé.
Il avait gagné un Grand Prix ou 2 Grands Prix.
Un seul à Valence.
Un seul à Valence et il est champion du monde.
Voilà. Ouais.
Donc voilà, c'est faux.
C'est prime à la régularité.
Exactement. Voilà, c'est prime à la régularité, ce qui va se passer aussi en Formule 1 si on y arrive.
Bah ouais, puisque pour en parler sur l'agenda, donc en MotoGP, dans 2 semaines, on sera en Argentine et en prime time. Hein, le départ du Grand Prix aura lieu à 20h en France. Allez, on part à Bahreïn pour l'ouverture de la saison de Formule 1.
Un très 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 grand retour pour notamment les Ferrari qui étaient très attendus depuis 2 ans ou avec les problèmes notamment moteurs liés au règlement 2019.
Respect Charles.
Ah bah là oui non mais là les Charles sont à l'honneur.
Les Charles sont à l'honneur parce que voilà moi j'ai vu un très 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 beau Grand Prix avec des rebondissements.
Très belle bataille Verstappen-Leclerc.
Voilà. Alors tu te rappelles Jérémy? Le 16e, 17e et 18e tour, où ils ont fait un mano-mano entre les deux, pilotes. Ils ont profité de la DRS tous les deux.
Voilà.
Ça a été, mais Leclerc n'a jamais lâché. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, tu vois, à un moment, tu te dis voilà, Verstappen, il a gagné quoi.
Mais après,
il a gagné.
C'est dommage que pour Max, qu'il ait eu des problèmes au niveau mécanique, surtout au niveau direction.
C'était au volant.
Où il arrivait peut-être à son volant.
Le volant moteur qui ne marchait plus. Et la puissance n'arrivait plus au moteur. Et ce qu'a connu Perez juste derrière.
Voilà, donc gros problème pour les Red Bull au niveau méca.
C'est
le
moteur Honda qui ne marche pas bien parce qu'on a vu aussi le moteur de Pierre Gasly partir en feu.
C'est ça, mais à contrario.
Quasiment au même endroit
que Romain Grosjean et tout. Donc pour les souvenirs.
Et à contrario, les moteurs Ferrari marchent très bien parce que les deux voitures As de Sebastian Schumacher et de Rasmussen, 5e et 11e.
Oui, pas mal. Hein.
C'est encore
le mec qui arrive
Ouais. Les As ont marqué quand même
9 points.
10 points en tout.
Ouais, 10 points,
ouais. 10 points avec Magnussen qui finit quand même 5ème de la course. Hein. Bon, ils ont
qui est appelé
au dernier des Red Bull.
Pour remplacer Vettel.
Mais oui,
c'est impressionnant.
Et en une seule course, c'est leur meilleur total depuis 2 ans.
Le mec, il a pris le volant vendredi, je crois.
C'est il y a une semaine.
Pour remplacer Vettel, même pas une semaine. Et le mec, il est là. Il finit 7ème, quoi, c'est impressionnant.
Non, Magnussen, 5ème, c'est impressionnant. Ouais. On a vu notamment les Alfa Romeo avec Bottas et Zhou qui finissent dans les points. Bottas, c'est une
vous dites Zhou, moi je dis Chong parce que.
Oui, c'est Guan Yu
Zhou.
10ème, premier point pour un rookie. Alors qu'on a pourtant, on pensait un petit peu pilote payant, machin chouette, parce qu'il est chinois, il a de l'argent, tout ça, il n'est pas forcément mérité. Et quand on voit ça, notamment avec Oscar Piastri, le double vainqueur F3 F2,
finalement, il est correct sur la piste.
Il est très correct avec franchement les moteurs Ferrari sont censés apparemment être le moteur le plus performant cette saison pour l'instant, mais en tout cas
ils ont les moteurs de la saison dernière, genre.
Ils ont quand même un peu développé, mais c'est quand même impressionnant le niveau des équipes pour l'instant Ferrari sur ce début de saison.
Alors moi j'ai eu aussi les Alpines
très mal.
Voilà. Par contre, leur couleur rose, j'ai pas aimé.
Ouais, ça va disparaître.
Parce que c'est pour les premières courses.
Il y a un problème avec McLaren.
McLaren,
qui a dessiné le bleu. Et ils vont rechanger de couleur McLaren pour que Alpine repeinte sa couleur bleue.
Ça. Et puis, non, mais McLaren qui finissent au fond du trou la course. Où c'est vraiment triste de voir des McLaren. Comme on disait avant, c'est les flèches d'argent qui sont plus flèches d'argent.
C'est clair.
C'est vraiment dommage.
Alors. Jérémy, on va en parler parce que voilà, on voit un Russell. On l'avait annoncé quand il avait fait sa course. Il avait remplacé Bottas une saison, une course. Il avait tenu la course tout le temps. Non, il avait remplacé Hamilton d'ailleurs. C'est pas Bottas. Et là maintenant, il finit quatrième. Bon, évidemment, il y a eu la bande de Pérez.
Mais Russell découvre la Mercedes.
Mais là,
c'est impressionnant.
Quand il avait fait sa course à une Mercedes. Il n'avait pas le baquet, il n'avait pas la voiture, il a fait la course en tête. Il a fallu une erreur des mécanos
qui changent les mauvais pneus. Puis après, il y a eu la crevaison.
Voilà.
Ouais. Il n'a pas été aidé.
Il aurait pu gagner son Grand Prix. Et là, je peux vous dire que.
Oh, bah cette année, ils vont gagner.
C'est un candidat cette année. C'est un candidat.
Ouais, je pense que cette année, on aura une grosse bataille.
On le sait, aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle réglementation. Cette année, ça sera le championnat du développement. C'est à l'équipe qui développera le mieux sa voiture, qui sera les meilleurs concepts aéro, qui trouvera petits points de règlement qui pourront aller et chercher
ses
dixièmes en plus.
Mercedes sont retournés 3ème et 4ème aujourd'hui.
Ouais.
Aujourd'hui, actuellement, Mercedes est la 3ème force du plateau à l'instant T, derrière Red Bull et Ferrari. Donc, qui finissent effectivement, finalement 3 et 4, c'est pas si surprenant de ça, dans le sens où les Red Bull ont abandonné. C'est un très bon résultat, quand tu prends les comptes. Mais après, ça reste quand même quelque chose qui était prévisible. On sait très bien qu'ils sont au-dessus pour l'instant des Haas, des Alpine, tout ça.
AlphaTauri, oui. Bon.
Voilà.
Mais attention, Haas, tu vois un Michael.
Le problème, ça va être le développement. Michael Junior Schumacher,
qui finit 11ème.
Qui finit 11ème, mais qui est pas loin des points. Et là, il va y arriver. Je pense qu'il va prendre des points cette année.
Après, ça montre aussi quand même la différence de niveau entre quand même Magnussen qui est arrivé cette année il y a une semaine et. Mick Schumacher, dont la voiture est censée être faite pour lui, quand même, c'est quand même le projet à long terme, c'est quand même Mick Schumacher. Finir que 11ème alors qu'il ne découvre pas l'écurie, ça reste quand même un petit peu un cache-misère.
Dans tous les cas, on ne va pas tirer un bilan après une
course.
Sur l'agenda, en tout cas,
la semaine prochaine, dimanche prochain, on est à Jeddah. Jeddah, vous rappelez, c'est le circuit sur la corniche qui avait vu.
En Arabie Saoudite,
qui avait vu Max Verstappen l'emporter à la dernière. Ouais.
C'était Hamilton qui avait remporté, avec notamment des incidents avec
Verstappen. Oui, des incidents de course, une et
avec le fameux contact, le break test et tout, qu'avait fait Hamilton. C'est le circuit avec les murs là et tout ça.
Hamilton qui finit dans le...
Et on y sort à court, le secours. Prochain.
Et on va avoir un petit mot notamment sur la F2 et la F3 avec les pilotes français qui se tiennent très très bon.
Le petit frère de...
Arthur Leclerc notamment qui est bien placé.
Qui finit deuxième.
Qui finit deuxième, mais c'est notamment Théo Pourchaire qui remporte la course principale de F2 mais qui du coup passe premier au classement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, lui qui est chez Art et qui dispute forcément le championnat et bleu pour la gagne et potentiellement un baquet pour l'année prochaine chez Alfa Romeo, lui soutenu par le Sauber Academy, Alfa Romeo, tout ça c'est lié, et notamment en F3 avec Isaac Hadjar qui remporte le rookie en F3 qui remporte du coup la course sprint, et Victor Martins chez Dams, qui lui il vient de passer chez Arte Grand Prix, qui notamment aussi dispute la gagne au championnat du monde, qui remporte la course principale. Donc pour l'instant, les Français, gros week-end pour les Français.
Ouais,
il y a de l'avenir, franchement. Il y a de l'avenir en moto.
Français monégasque, on va dire. Ouais.
Français monégasque, voilà. Aussi, du coup. Enfin, tout ça, c'est.
Allez,
c'est
on en reparle la semaine prochaine.
Allez, on passe à autre chose. On passe à l'événement du week-end. C'était du rugby. On écoute le jingle.
Money time. Highlight. On discute, on échange et on analyse autour d'un invité ou d'un événement. Highlight. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Eh oui, le crunch n'est pas qu'une petite tablette de chocolat au riz soufflé. C'est surtout le match que tout le monde attend chaque année entre la France et l'Angleterre, et c'était la finale du Grand Chelem.
Comme les crunchs, c'était très croustillant.
Et quel match ? Quel match des Français, collectivement, sur du début à la fin, ils ont étouffé les Anglais. Et franchement, chapeau à eux.
C'était le but un peu, hein. C'était vraiment les écraser, comme on disait, les Anglais, il faut les écraser, il faut leur marcher dessus pour qu'ils comprennent qui va gagner, quoi. Et c'était un message qui était passé directement par l'entraîneur. Il avait dit, faut leur marcher dessus, quoi. Ça s'est passé, voilà, on a gagné.
Oui, mais enfin, ça a été quand même assez serré. Hein. Quand tu vois la fin de match, franchement, tu pensais que les Anglais allaient revenir.
Ils lâchent rien.
Ils ont rien lâché. Ouais.
Rien lâché.
La France a montré qu'elle avait une énorme défense. Et ça fait un score, Charles Rock, dis-nous le score, parce qu'on ne l'a même pas cité.
25-13.
C'est ça. Oui, et encore avec un super Dupont, hein, qui a contrôlé.
Dupont, Ficou,
exceptionnel sur le premier essai.
On peut féliciter toute l'équipe, même Mathieu, parce qu'ils ont été impressionnants.
Même Cyril Bay, Julien Marchand, ont été en première ligne.
Aldrit, un grand tournoi aussi.
Cameron Wookie aussi, qui a été énorme dans sa position. Oui.
Exactement, dans le 15 actuellement, il y a vraiment c'est que des joueurs solides, c'est que des très bons joueurs, il y en a pas un qu'on pourrait enlever. Peut-être Melvin Jaminet qui a été un petit peu moins bon sur les deux derniers matchs, notamment au pied où il a loupé quelques transformations et quelques pénalités, mais dans l'ensemble, il fait un très bon tournoi, il a un jeu au pied de relance très très fort, très bon. Donc franchement, aujourd'hui les Français sont 3e nation mondiale derrière notamment l'Afrique du Sud.
2e maintenant.
Et la Nouvelle-Zélande, et du coup maintenant deuxième, comme tu me le dis. Et c'est, on voit franchement que les talents ne manquent plus actuellement en France, et que 2023 pour la Coupe du Monde, ça s'annonce de très bonne augure, surtout en plus en France.
Oui. Attention quand même à ne pas s'enflammer.
C'est ça.
Mais voilà, les bilans qu'on peut faire de ce tournoi, du coup.
Mais comment tu veux pas t'enflammer?
Donc, la France.
Bah si, on doit s'enflammer. Sauf qu'ils ont perdu la Coupe du Grand Chelem. Ils l'ont perdu, ils l'ont fait tomber dans la Seine.
Ça tombe à l'autre, cette histoire.
Ils ont fait venir des marins-pompiers de Marseille pour aller chercher la... Non, je plaisante. Non, voilà, alors, ce que je voulais dire, la France, voilà, elle a fait un super tournoi, elle a battu tous ses adversaires. Le Grand Chelem, qui n'était pas arrivé depuis 2010, ça faisait 12 ans.
C'est ça.
C'est le 10e, je crois, pour la France.
Tout à fait.
Et les autres nations, c'est ça qui est important. L'Irlande qui fait un super
match
bilan.
Contre l'Écosse, un super bilan pour eux. Hein. Ils finissent deuxième, mais ça s'est joué à très peu de choses, notamment face à l'équipe de France. Ça a été un match très serré. Donc l'Irlande fait un super tournoi. L'autre équipe qui finalement fait un très très bon tournoi, c'est l'Italie quand même.
Mais hein. Oui, ils battent le Pays de Galles.
Ils finissent enfin par une victoire, enfin.
Incroyable.
Un petit match. Hein.
C'était
un petit match qui n'avait pas gagné.
Ça 36 faisait,
matchs.
36
matchs.
13 ans en durée.
Et c'était contre la France.
Et ils ont enfin gagné ce match-là.
Mais c'était émouvant comme match, parce que, si tu veux, c'est un joueur gallois qui prend la médaille du meilleur joueur du match.
Josh Adams, c'est lié.
Et qui donne sa médaille
à Ange Capoezzo, l'arrière.
Voilà.
Qui marque dit, bravo. Le point qui bravo. Donne la victoire à l'Italie. Ouais.
C'est ça, notamment. Dit, ouais. Mais c'est
beau fair play.
Incroyable.
Ouais, bon fair play. C'est magnifique. C'est incroyable. Magnifique de voir des gestes comme ça.
Mais surtout, le dernier essai, c'est quand même incroyable. C'est un jeu au pied long des Gallois, et une relance magnifique des Italiens, qui se finit avec un essai de Padovani. Ça a été Garbizzi qui met la transformation à la 80e. C'est-à-dire que s'il la mettait pas, bon après elle était facilement entre les poteaux, mais s'il la mettait pas, c'était pas gagné. Et s'il la mettait, c'est
ils font en larmes le mec.
Ils font en larmes, mais c'est incroyable. On a vu la dernière victoire de l'Italie, c'était
il y a 13 ans.
Il y a 13 ans.
13 ans.
C'était souvent en plus là,
j'étais pas né, enfin si, mais quand même.
Les, tout souvent, les victoires sont plus à domicile qu'à
l'extérieur.
Au Stade de France, là, c'était quand même pour
c'est
nous
à Cardiff,
embêter.
Quand même.
Mais... Oui, là c'est à Cardiff, c'était Cardiff, jamais arrivé. Ouais. Et puis enfin, ça met un petit.
Faut pas s'oublier que Pays de Galles, on a galéré quand même à les battre.
13-9.
Avec
une défense solide.
C'est un petit coup derrière la tête des gens qui veulent absolument virer l'Italie.
Qui progresse de ce tournoi en année. Et qui devient de plus en plus, avec notamment. On parle de Minozzi qui était pas là. On parle de Garbizzi, tous ces jeunes-là, Capuezzo. Ils ont vraiment une équipe très jeune. Et qui est vraiment en train de devenir un vrai collectif et qui sur les années à venir bah, alors ne sera peut-être pas au niveau de l'équipe de France, de l'Irlande, de l'Angleterre, mais qui pourra venir embêter parfois et comme par hasard aller faire
et bah moi je serais pour essayer un peu la Géorgie.
Ouais. Bah, un tournoi.
Je suis pas sûr que ça fasse 13 cuillères de bois de rang. Hein.
Bah, faudrait bon, faire un match
Géorgie,
de soutien.
Il tape dans le bois.
Pour moi, un match de soutien entre l'Italie et Géorgie, mais je vois actuellement l'Italie quand même meilleure que la Géorgie.
Après, c'est aussi des questions de distance, hein, comme
oui,
quand
aussi,
on parlait
Géorgie,
de
l'Australie. Près, hein. De
oui, et puis le Caucase, c'est pas trop le moment d'y aller en ce moment.
Exactement.
Voilà. Donc, on va garder l'Italie. Est-ce qu'on est au courant pour la tournée d'été dans l'hémisphère sud qui les Français vont rencontrer? Parce que là, ça sera intéressant pour une fois de la jouer à fond, cette tournée, si les internationaux sont libérés par le top 14. Non, mais bon, voilà. Ça sera une
on
des échéances à attendre avec, là aussi, la tournée d'automne en fin d'année.
Il y aura les Pumas, mais les Pumas, hélas, vous avez appris le décès de
Martin Aramburu.
Qui s'est fait abattre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment.
Ça part d'une rixe, ça part
d'un rembarre.
À Paris, bon, c'est triste. On pense fort à sa famille, notamment.
Bon.
Ancien joueur du top 14, notamment Biarritz et Bayonne.
Ok, allez, on va parler de tout autre chose maintenant. On parle des classiques de printemps dans Chasse-Patate.
Chasse-Patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et on reste en Italie d'ailleurs dans cette saison cycliste. La semaine dernière, c'était Tirreno Adriatico et les Strade Bianche. Cette semaine, on a eu Milan-Turin, Charles, avec le CAV qui s'impose.
C'est sa troisième victoire de la saison pour le Marc Cavendish. Ça faisait 12 ans, si je crois bien, qu'il n'avait plus gagné en Italie une victoire. Donc ça montre ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné. Et là, il arrive à remporter. Souvent, c'est effectivement ça. Termine au sprint. On avait eu notamment Arnaud Démare gagner il y a quelques années, même pas, c'était je sais plus, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça se termine souvent au sprint. Et là, bah, bis répété, on a failli avoir un autre Français, c'était Nasser Bouhanni, mais qui malheureusement s'est fait devancer par Marc Cavendish qui revient en grande pompe depuis l'année dernière.
Cavendish qui prépare certainement le Tour de France pour battre le record de Eddy Merckx de victoires.
C'est pas sûr parce que il y a quand même le grand favori du côté de la Quickstep pour jouer le Tour de France, ça restera Fabio Jakobsen qui est le grand sprinter de cette saison, il a 6 ou 7 victoires déjà. Mais Cavendish sera peut-être là, à voir, hein, bien évidemment. Mais c'est sûr que là, c'est une nouvelle victoire pour lui. Troisième victoire de la saison, comme je le disais. Donc, c'est le retour du CAV en pleine forme, après des années de galères, de difficultés, notamment bah, chez la team Dimension Data, tout ça. Donc, ça fait plaisir de revoir le Britannique à ce niveau-là, surtout sous la Quickstep.
On avait vu que lui sur le Tour de France hein, l'année dernière.
Bah oui,
ça fait plaisir de le revoir. Ça faisait pas si longtemps, Charles, qu'on l'avait pas vu. Hein.
Exactement.
Bon, mais le monument, c'était samedi, entre Milan et San Remo.
Encore une histoire de Milan.
Et surprise, un Slovène, mais pas celui qu'on attendait.
C'est ça. Et Nice, l'autre qu'on aurait pu attendre aussi, c'est le Slovène, c'est Matej Moric. Cette saison, c'est une histoire de Slovène actuellement. Hein. C'est Moric, le coureur de la Bahrain Victorious qui vient s'imposer en solitaire. Il part dans la descente finalement du podio où tout s'est dessiné pour la victoire. Il est grand descendeur, hein, Matej Moric, hein, on sait bien, et qui a su résister au retour notamment du français Anthony Turgis de la Total Energy.
Ouais, qui règle le sprint du peloton. Petit peloton hein, de favoris. avec Van Der Poel, Van Aert, Pedersen, Søren Krag Andersen, il y avait tout le monde.
Mais voilà, donc on a une belle victoire pour lui, qui gagne son premier monument de sa carrière, dans sa jeune carrière, parce qu'il n'est pas non plus, il est pas tout vieux, hein, il est assez jeune, hein, il a que 27 ans, Matej Moric, hein. Il a notamment gagné deux étapes sur le Tour de France 2021, donc ça montre quand même le niveau du garçon, champion du monde notamment des moins de 23 ans en 2013, donc c'est quand même quelqu'un qui commence à avoir quelques références, et c'est pas étonnant de le voir là. On se souvient notamment de lui, c'est lui qui avait un petit peu emmené le sprint pour Julien Alaphilippe quand il avait gagné le San Remo en 2019, donc c'est impressionnant le niveau du Slovène.
Rappelle-moi, il est de quelle équipe?
Bahrain Victorious. D'accord. L'équipe de Mikel Landa et de Wouters notamment.
Très bien.
Et Sonny Colbrelli qui malheureusement a été victime d'un malaise sur le Tour de Catalogne aujourd'hui. Le grand sprinter, puncher italien, donc c'est un coup dur pour la Bahrain Victorious notamment.
Ouais, cette semaine c'est le Tour de Catalogne et la semaine prochaine ça sera un autre monument qui arrivera, je crois, hein, sur. Très vite sur le
c'est le Gant Wevelgem ce week-end.
Mais...
Bon, c'est une bonne classique World Tour,
ouais.
Mais c'est en préparation du Tour des Flandres dans deux semaines. Juste à noter, donc, le Tour de Catalogne, comme tu me le disais, qui commence aujourd'hui. Et on a eu la victoire de Michael Matthews, le coureur de la Bike Exchange, qui s'impose devant donc Sonny Colbrelli et Quentin Paché, le français de la Groupama. Donc c'est encore un podium pour un français. Bon, une troisième place sur sa grande en cyclisme. Sur les courses par étapes, c'est pas grand-chose. Mais bon, ça reste toujours bien de voir des Français bien placés dans les courses par étapes.
Un petit mot du local pour se rapprocher.
Le classique Loire-Atlantique.
Exactement. Et la victoire d'un Cofidis.
C'est Anthony Pérez, donc aussi, pas très très vieux, hein, notamment Anthony Pérez. Bon, 30 ans, mais bien évidemment, bon, ça fait vos cyclistes, c'est l'âge, on va dire, moyen, on va dire ça comme ça, même si actuellement, c'est-à-dire qu'on a un beau renouvellement de jeunes. Il s'impose devant l'anglais Askey de la Groupama FDJ et Louvel. Donc c'est. Son prénom, évidemment, c'est Mathis Louvel, le jeune de la Arkea Samsic.
Est-ce qu'il y avait d'autres courses dans le coin?
Il y avait l'autre, c'était le Cholet Pays de la Loire. Le Cholet Pays de la Loire, c'est le notre classique, ouais. Du coup de la Loire Atlantique. Et cette fois, c'est Marc Sarro, le coureur de l'AG2R, lui qui était notamment chez la Groupama FDJ l'année dernière, qui s'impose. Donc, première victoire pour lui sur cette saison, devant le, entre guillemets, le local de l'étape, on va dire ça comme ça. C'est Emmanuel Morin de Nantes Atlantique qui finit deuxième. Donc une belle deuxième place pour le coureur local de l'étape.
Eh bien, si on a été complet, on va passer aux résultats de nos clubs nantais. C'est Score en Stock.
Money Time.
Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, on va commencer par les sports qui nous font un peu moins sourire. Et on va commencer par le basket.
Aïe.
Et une nouvelle fois, le NBH a perdu 73-66 à Denain, dans le Nord. Et demain, ils joueront à Saint-Quentin. Ils reçoivent Saint-Quentin, pardon, à la Trocardière. Nantes est 17e.
C'est 18.
Catastrophique.
C'est catastrophique. Hein. Ouais. C'était un match très important, notamment face à Denain, qui était juste devant nous au classement. C'était vraiment pour les passer devant.
Juste derrière au départ.
Ouais, juste derrière.
Qui nous passe devant.
Pour vraiment les passer et revenir potentiellement sur Boulazac. Mais là, c'est vraiment un coup dur. Et Nantes, qui du coup joue la relégation. Hein. Là,
c'est l'enfer. Là.
C'est vraiment l'enfer pour les Hermines, qui malheureusement va être compliqué de s'en sortir cette saison. On sent qu'il y a quelque chose qui.
Après les déferlantes, c'est l'Hermine qui est dans la tempête.
Hein. Oui,
c'est
et ça, justement, ouais. Les déferlantes, le SCSP déferlante Nantes, va un tout petit peu mieux avec une victoire 57-51 face à Aulnois. Mais ils sont toujours dans la tangente et ils pourraient descendre. Prochain match, ça sera le 26 mars, la réception de Montbrison.
Allez, on passe au hand. Alors, le H ne jouait pas puisque c'était la Golden League, mais les Neptunes étaient sur le pont deux fois cette semaine. C'est mercredi, c'était la Coupe contre Chambray, Jérôme.
Tout à fait, c'était en Coupe de France, un match de quart de finale de Coupe de France qui était plutôt important pour elles, car elles étaient déjà éliminées de la Coupe d'Europe et malheureusement pour elles, elles n'ont pas bien joué et pas su garder la pression pour le match contre Chambray. Pourtant le match fut quand même serré avec un 15-16 à la mi-temps et finalement ils perdent 28-29 au buzzer dû à une balle perdue de Grandina. C'est dommage pour elles, du coup elles ont que le championnat à se concentrer là-dessus et on va pouvoir entendre d'abord Florian Landry. En direct de Radio Prune, je suis avec Florian Landry. Florian, nouvelle désillusion ce soir, dû à ce match perdu à nouvelle fois de très peu. Maintenant, au championnat, tout reste à jouer. Et comment vous allez vous préparer pour le match contre Paris dimanche?
Je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est sur Belle, on a montré une image un peu décevante de nous. Et là, je trouve qu'on a montré une belle image de nous. Malheureusement, le match est joué à des détails. Elles ont fait moins de fautes que nous, donc forcément, elles gagnent le match à la fin. Ouais, c'est une grosse désillusion. Maintenant, il nous reste que le championnat, donc on va être focus à 100% sur le championnat et pour préparer la rencontre de Paris, qui est un adversaire direct, pardon. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il nous reste encore des entraînements avant Paris et on va se donner au maximum pour être le plus préparé possible contre Paris.
Ça, et en sachant que toi, tu as fait encore une très grosse performance aujourd'hui, 10 arrêts sur 25, c'est ce qui est quand même assez énorme.
Oui, c'est pas trop mal, mais à la fin, enfin, à la fin du compte, on perd. Donc, pour moi, c'est pas important la performance que je fais. Le plus important, c'est de gagner. J'aurais préféré faire un arrêt et qu'on gagne qu'en faire 10 et qu'on perde. Donc voilà.
Ça, bah, je te remercie, Florian, et je te laisse avec tes copines.
Merci à vous. Bonne soirée.
Et du coup, et pour conclure, quoi de mieux que d'entendre Gordina pour conclure cette soirée de match pour se remotiver pour Paris.
Allez, la capitaine au micro de Prune en zone mixte.
Directeur live de Radio Prune, je suis avec Gordina. Ce match est un petit peu décevant, mais pourtant tu as montré l'exemple dès le début du match en marquant l'entrée de jeu. Pareil en demi-temps, tu as montré la force de rage. Comment as-tu remotivé ton équipe pour préparer Paris et comment corriger ses erreurs?
J'ai bien montré aussi, je n'étais pas un exemple pour la fin, pour la dernière faute. Mais bon, c'est comme ça. Après, on a tous eu envie de gagner, justement. Mais c'est vrai qu'on était tout le match, on était derrière, on est couru après. Et voilà, c'était dur, justement, et c'était compliqué. En défense surtout, je trouvais qu'en attaque, ça allait. Et on a toujours trouvé une solution en attaque, sauf qu'en défense, on a tout essayé. On a joué 6-0, 5-1, sauf que voilà, et même Chambray, ils ont trouvé à chaque fois une solution pour notre défense. Et voilà, il faut progresser, il faut travailler, il faut se concentrer surtout sur Paris. Et là, le dernier objectif du club, c'est de rester en première 5 du championnat. Ça va être dur et serré, mais voilà, on a malheureusement que ça à jouer et que ça à se concentrer. Et je pense voilà, faut tout donner. C'est vrai aussi que les dernières semaines, les derniers mois, il y avait trop de changements. C'est pas toujours facile de nous voir, surtout sur le terrain, qu'on gagne et on perd, c'est vrai. Mais en dehors du terrain, il y a des choses qui se passent et il faut adapter. Elle aussi qui arrive, qui n'était jamais avant entraîneuse en France. Et du coup, elle aussi, il faut qu'elle s'adapte. Nous aussi, il faut qu'on s'adapte et il faut se retrouver au milieu.
Ça marche. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, ça allait beaucoup mieux. Et je te dis à dimanche, coup de Paris.
Merci, à dimanche.
Et bonne soirée.
Bonne soirée.
Et pour se rattraper après avoir entendu Gordana, il y avait le match de dimanche pour se rattraper. Et belle victoire des Nantaises face à Paris 92 qui était juste devant au classement.
Et avec la manière et l'incendicité de ce qu'ils auraient dû faire dès mercredi.
Trois centaines de matchs, hein, on a vu avec une Karim Stromberg vraiment au diapason. Hein.
Qui au contrario était transparente mercredi.
Victoire 27-24.
27-24, on écoute Manon Loquet qui était au micro de Prune.
Manon, un petit mot pour Prune. Bonsoir, bravo pour la victoire ce soir.
Merci.
Après la désillusion de mercredi, il fallait réagir. Et ce soir, c'est chose faite avec une victoire dans un match de prestige.
Voilà, exactement. Fallait qu'on réagisse après la défaite de mercredi, mais aussi la défaite de la semaine dernière contre celles sur Belle qui sont quand même en bas du classement. Donc là, c'est chose faite et c'est un grand soulagement et on est contente.
Ouais, ce soir, pas de temps faible. Il y avait de l'envie et de l'abnégation dans les têtes.
Ouais, exactement. Je pense que je pourrais pas dire mieux avec le support de tout le public. Donc c'était vraiment. C'était une journée avec, disons.
Bon, c'est quoi l'objectif de fin de saison pour les Neptunes?
Là, étant donné qu'on s'est fait éliminer de la Coupe de France, on s'est fait éliminer de la Coupe d'Europe, maintenant l'objectif c'est le championnat, très clairement, et essayer de rester dans le top 5 et pourquoi pas d'aller grappiller des places vers le haut pour avoir la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Eh bien, on vous le souhaite.
Merci.
Et du coup, on va parler tout de suite de leur voisine de salle, le VBN, donc de Volley. La victoire de Aix-Venelle 3-1 à Nantes, encore une défaite à domicile.
Qui a dû faire plaisir à Cyril.
Je pense qu'il doit un peu manger son chapeau, le pauvre Cyril. Bon, il va rester un match le 26, le déplacement à Cannes, chez le RC Cannes. Et après, on attaque les playoffs et il va falloir vraiment qu'elles
soient pas en position favorable avec cette quatrième place. Hein.
Elles sont à égalité avec Terville.
Oui, c'est ça.
Ça serait bien d'accrocher une troisième place pour s'offrir un playoff plus facile.
Ça serait mieux.
Bah, ça va pas être simple.
Eh ben, on les suivra. Les boys, gars, ça va pas mieux non plus.
Non, défaite à Cambrai 3-1, 3-7-1.
Les play-downs qui commenceront pour les boys.
Exactement. Et ça sera pas facile, mais bon.
Allez, au rayon des bonnes nouvelles, on va parler de hockey avec toi, Jean-Marc.
Oui, oui, oui.
Voilà, très, très bien.
Le super match de hockey.
Deux
super matchs, pardon. Ça avait commencé samedi avec un match de malade mental. Les Drakkars de Caen étaient venus à Nantes pour piller la ville et mettre le feu. Mais les Corsaires ne sont pas laissés faire. Ils ont été menés 1-0 jusqu'à 9 secondes de la fin.
Scénario de cinglé.
Exactement. La Bergui a surgi de sa boîte, égalisé. Et dans les secondes qui ont suivi la reprise du match, c'est Paul Schmidt qui a donné la victoire aux Nantais. Un match de fou. On a assommé sur cette première manche la tête des Drakkars de Caen. Et puis, du coup, on s'est retrouvé dimanche à 17h. Match retour, d'ailleurs, Fabrice. Tu étais avec moi. C'était une première pour toi. Nantes qui a bien géré. Mathieu André va ouvrir le score à la troisième minute du premier tiers-temps. Deuxième tiers-temps, c'est Crowder qui va... Pardon, je dis une bêtise. Moi, c'est Ten Brack. Ah oui, l'action magique à la 36e.
Voilà.
Alors que...
Jonas
Harald qui te faisait martyriser, pilonner par les attaquants de Caen. Et sur un superbe réflexe de la jambière, il renvoie le palais en direction de Ten Brack qui part tout seul face à Kemener, le meilleur gardien de la Ligue. Et il le bat, ça fait 2-0 pour Nantes à la 37e minute de jeu.
C'est une super belle contre-attaque.
On se dit que c'est bien parti.
C'est bien parti. Et puis bon, on a vu la fin. Voilà, deux pénalités pour les Drakkars. Et voilà, ils jouent à 3. Et bon, et plus de gardiens. Ils font sortir leur gardien pour mettre un joueur de champ supplémentaire. Tu vois quoi, j'ai bien compris.
Oui, mais tu as tout suivi, tu es formidable.
Et puis voilà, pas tout seul et voilà.
C'est Mathieu André, grâce à Quentin Jacquier et Mathieu Gagnon, qui va marquer son deuxième but du match. À retenir déjà la belle perf de Mathieu André qui met deux buts. Et puis surtout le blanchissage, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit au Canada, de Jonas Harald.
Ce que tu m'as expliqué avant la troisième période, ce serait bien de faire un blanchissage. Alors moi, je ne comprenais pas de quoi il me parlait.
C'est pas la lèvrerie.
C'est pas les dents.
Non, c'est quoi, on fait la lessive ici ou... Mais non, Jean-Marc m'a expliqué, voilà, c'est bien. Et ils l'ont bien expliqué à la fin. Donc c'était mon premier match de hockey, moi. Depuis 30 ans, donc voilà, j'ai bien tout compris maintenant.
On est
grâce à Jean-Marc, j'ai bien tout compris.
Merci le professeur.
On est tellement contents pour la défense nantaise.
Hein, Martin.
C'est le premier de la saison, le blanchissage. Hein, y avait toujours eu un but, un scoring, quelque chose. Et là, du coup, on attaque les playoffs en grande forme.
Mercredi.
Prochain match, mercredi à Caen.
Besoin que d'une victoire hein, pour passer en demi. Et ça sera vraisemblablement le vainqueur de Strasbourg-Brest. Les Albatros qui ont été à Strasbourg.
Ça sera Cholet-Épinal.
Ah, pardon, c'est aussi bien.
Et Cholet qui, pour l'instant, mène 2-0. Donc, a des chances de s'imposer face à Épinal et qui, du coup, on pourra retrouver sans doute pour les demi-finales. A noter que, du coup, Strasbourg-Albatros, pour l'instant, des Albatros de base, ça fait un partout. Et sur le dernier match, il y avait aussi 2-0. C'était pour les Yeti du Mont-Blanc.
Face à Neuilly, c'est les Bisons de Neuilly.
C'est ça.
Donc, oui, et on verra ça. Donc, mercredi. Troisième match, si on le gagne, c'est bon. Jeudi, si c'est pas gagné, c'est le quatrième match. Et au cas où il y a un match d'appui dimanche, s'il y a 2-2, et ça serait dimanche à 17h, mais on croise les doigts pour que les Nantais se qualifient avant.
Oui, oui, mercredi, c'est plié.
Et du coup, par contre, on inversera le sens si jamais c'était Cholet qui passait, puisque Cholet ayant fini devant Nantes au classement.
On ira à Cholet deux
fois. Les matchs de week-end seraient... on ira, hein, c'est clair, hein, comme cette année, comme je l'ai fait cette année. Les matchs de week-end, donc les premiers matchs, ça serait à Cholet.
Et en semaine, du coup, après, ça sera les deux matchs à Nantes. Et si jamais il y a besoin, le match d'appui se fera à Cholet.
Exactement. Est-ce qu'on a des résultats des féminines du FC Nantes ?
Exactement, les féminines qui revenaient enfin jouer à domicile et une victoire 8-0 contre le FC Vandenheim. Bon, FC Vandenheim essaye de jouer un peu sa survie. J'ai entendu quelques réactions des joueuses de Vandenheim qui nous disaient « bah là, c'est cuit ». Donc du coup, les Nantaises sont toujours premières au classement avec le Havre Athletic Club qui l'a emporté. Le LOSC a gagné aussi. Par contre, petite info, Metz et Lens ont perdu. Donc au classement, Nantes et Le Havre, c'est 38 points. LOSC, 36 points. Et les autres sont à 29. Il y a déjà un petit break.
Voilà, il y a les trois équipes qui vont jouer la montée. Le Havre et Metz. Donc,
essentiellement. Ouais, bon, et puis, on pourra compter sur les matchs. On rappelle que Lille-Nantes a déjà été joué, hein, les deux matchs. Il y avait eu un partout la semaine dernière. On espérera que peut-être les Lensois nous aident à éliminer les Lillois.
Ça serait sympa.
Ça serait pour le petit clin d'œil sur le match des garçons dont on va parler tout à l'heure. Mais à noter pour les filles du VB Nantes, ce week-end, c'est déplacement à Yzeure pour la Coupe de France demi-finale.
Pour une place en
à 15h. Si normalement il y a un bus qui est organisé, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement avant qu'ils annulent le bus.
Il faut que ça soit fait avant 6h.
j'ai pas l'heure, donc n'hésitez pas si blague. Ça vous intéresse. Il faut envoyer rapidement un message à Active Nantes Support. En espérant que ce soit la finale. La finale aurait lieu à Dijon. Hein.
Yzeure est une équipe de D2 qui joue dans la conférence entre Metz Sud.
Qui est deuxième,
donc qui est plutôt bien placé, même si là, on sait que le deuxième, c'est moins fort en tout cas que Nantes.
Ils sont passés deuxième ex aequo parce qu'ils ont été battus par Marseille.
Exactement, donc il y a vraiment une possibilité d'aller en finale.
Bon, allez, on a été complet sur les résultats.
Non, pas tout à fait. C'était juste pour vous dire, en rugby, n'oubliez pas, samedi, c'est le derby entre le Stade Nantais et la Baule.
Et c'est à Pascal Laporte, boulevard des Anglais. Allez-y nombreux, allez, on enchaîne notre dernière rubrique football, le Prune Football Club.
Money time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et là, et du coup, on attaque avec la défaite de nos Canaries 1-0 à la Beaujoire. Un but d'Onana pour Lille. À noter un carton rouge de Wea pour un tacle par derrière pour Moutou Samy. Et là, Sylvain Armand, l'ancien Nantais qui pète les plombs, dit à son équipe de quitter le terrain, insulte l'arbitre, je crois, et également un encadrant Nantais. Va vraiment falloir qu'il fasse attention, Sylvain Armand.
Sylvain qui revient.
C'est la deuxième
suspension.
Fois.
Il revient d'une suspension en plus.
Il s'est chauffé avec Comboiré.
Et il s'est chauffé à la fin avec Comboiré qui lui expliquait « Détends-toi, garçon ». Je pense que s'ils étaient dans un bar, ça ne serait pas passé comme ça. Mais il faut vraiment qu'ils se calment. Armand, ils mélangent tout. C'est la troisième fois qu'ils nous font un cas comme ça.
On avait le cas avec Antonetti, là, notamment.
Et là, mais là, je voudrais surtout que les règles changent, que les encadrants soient sanctionnés plus sévèrement et avec des amendes pécuniaires fortes.
Et surtout que Sylvain, il revient d'une suspension.
Là, je pense qu'il va prendre sûrement jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il prenne une amende pécuniaire, un petit 100 000 euros. Ça le calmerait un petit peu et lui expliquerait qu'il y a des choses à ne pas faire.
Moi, je le connais, je l'ai rencontré 2-3 fois.
À la base, il n'était pas comme ça.
Mais il n'était pas comme ça, mais voilà.
C'est Gourvennec qui aurait mauvaise influence sur lui ?
Olivier Létang.
Mais là, on balance des noms, c'est pas bon. Mais je suis très surpris de sa réaction. Moi, j'y étais au match et quand je l'ai vu intervenir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi, là ?
Surtout que le carton rouge n'est pas scandaleux, hein, puisque c'est un tacle par derrière.
Il est tout à fait logique.
Il est logique. D'ailleurs, il est blessé maintenant, Moutou Samy.
Voilà, en plus.
En plus,
on va revenir au match. On va revenir au fait de match où on perd 1-0. sur une boulette. Et
bah,
puis,
c'est,
voilà,
c'est un peu casquette, corner,
c'est tête, un peu casquette puisque c'est sur un corner où il n'y a pas Quentin Merlin au premier poteau puisqu'il vient d'être blessé et il est sorti, alors que c'est lui c'est qui est sur ce rôle-là. Première tête de fonte, elle est très bien envoyée par Alban Lafont et la reprise de Nana qui finit au fond.
Et Quentin Merlin, moi je suis très déçu pour lui parce qu'il avait peut-être une première sélection de l'équipe de France.
Espoir.
Mais il est blessé donc il ne pourra pas jouer.
Mais sur, je ne sais pas du coup si sur le papier ça sera indiqué. Non, bah non, bah du coup non.
Le
sur le papier, est-ce qu'il aurait, il aura une sélection ou pas? Je sais pas. Bonne question.
Une défaite qui fait reculer Nantes à la 9e place.
Hein. Et qu'il est blessé. Si, si, il y aura une sélection. Il est sélectionné.
Bon, on enchaîne avec le voisin qui s'est régalé.
Rennes. Le voisin rennais qui, après leur défaite, enfin, après leur victoire et élimination contre Leicester.
Oui, parce que ça.
Et qui a encore eu des faits de match sur, des, sur la barre et la pénalty. Qui fait très mal entre les fautes sur Guirassy et les mains et tout ça, qui a des surfaces, c'était compliqué. Rennes qui a largement dominé Leicester, mais qui méritait de marquer beaucoup plus. C'est vengé dimanche contre Metz, mais littéralement vengé avec un 6-0, enfin, 6-0 dans, avant la fin du match. Où,
et
le
finalement,
but de Metz,
il y aura un petit but Messin.
Voilà, mais
surtout que
ce qui était bien sur ce jeu-là, toutes les actions relais, c'était des 1-2, des une passe contact.
C'est 10 buts en deux matchs avec le dernier 4-2.
Et Rennes, c'est sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 20 buts.
Et puis, meilleure attaque victoires. Meilleure attaque de France.
Triplé, 5 victoires. Triplé de Guirassy, doublé
de Martin. Et triplé de passes ici de Bourigaud qui est maintenant en deuxième.
Meilleur passeur.
Ça nous fait mal au cœur de le dire, mais c'est l'équipe du championnat. Moi, pour moi, c'est l'équipe qui me fait rêver cette année.
Ah, je suis d'accord.
J'ai du mal à le dire que
Rennes fait rêver. Meilleure attaque, troisième
défense. Mais c'est 63 buts. C'est 63 buts cette année. C'est la meilleure attaque.
Ouais.
Il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire
à part admirer, c'est un jeu collectif magnifique. Et je pense qu'il faut féliciter Bruno Genesio, qui a souvent été décrié à Lyon, qui a été le fameux Pep Genesio, effectivement, qui a souvent été décrié et tout, mais qui fait un travail considérable et formidable avec les Rennais actuellement.
Et ça, qui a réussi à aligner ses joueurs forts, joueurs moyens et très jeunes.
Et puis avec des recrutements intelligents. Et c'est ça qui manque à certaines équipes dont je tairai le nom.
Quand ça joue, c'est 4 buts, quoi. Que Paris n'arrive pas, parce que Paris s'est déplacé, on va parler tout à l'heure, Paris s'est déplacé sur les 10 équipes premières du championnat, les 10 premières équipes. Paris n'a pas gagné à l'extérieur.
Ils perdent à Nice, ils perdent à Rennes, ils perdent à Nantes. C'est
ils perdent à Monaco.
Et là, ils perdent à Monaco.
Une équipe qui va un tout petit peu mieux, c'est après cette défaite, nos voisins angevins qui l'emportent face à Brest.
Bravo.
1-0.
Ah, ils avaient besoin de ces 3 points pour sortir de la zone rouge.
Ça fait du bien.
Et puis Lorient, que tu
le nul face
Fabrice.
À Strasbourg, c'est pas si mal.
Évidemment,
si
les Merlus, évidemment, il faut qu'ils restent en Ligue 1, c'est très bien. Et je pense que voilà, maintenant on a une équipe, voire deux au fond.
Deux, Metz et Bordeaux.
Metz et Bordeaux, je pense que c'est fini.
Bordeaux qui coule, qui perd donc, à 11 contre 9, 1-0 contre Montpellier, alors qu'ils étaient à 11.
Et pendant le match, grosse agression entre Costil et les supporters qui l'ont
pas insulté. Oui, j'ai vu.
À la fin du match, ils ont pas insulté.
Oui, après, je pense qu'il y avait peut-être un petit message présidentiel.
Oui, voilà.
Mais je pense que
c'est le naufrage pour le Bordeaux.
Il faut se méfier de ces gens-là.
Espérons qu'ils ont une bonne assurance. Peut-être pour ça qu'ils s'appellent Matmut Atlantique.
On ne va pas parler de la branlée prise par le PSG à Monaco 3-0.
Non, mais plutôt... avec un Neymar qui est sorti un quart d'heure avant la fin du match.
On va plutôt parler de Marseille qui l'emporte 2-1 sur Nice.
Avec un super match.
Un super match.
Et seul dauphin du Paris Saint-Germain.
Avec un but de Milik et de Bakambu. Bakambu qui marque son 100e match en Ligue 1.
Et du coup, au classement, donc Paris toujours en tête.
Et Marseille
points.
qui s'est réconcilié avec son public.
Oui.
Et franchement, a fait un super match.
Et Marseille qui s'est qualifié notamment en conférence Europa League en éliminant le
Bâle
et qui affrontera le PAOK Saint-Louis en quart de finale. Voilà. Les Lyonnais, eux, se sont aussi qualifiés contre Porto. On dit ça juste comme ça. Et qui, du coup, se qualifient pour les quarts de finale. Ils affronteront West Ham United.
Voilà. Exactement, très beau match. Donc, du coup, je reprends le classement. PSG 65 points, Marseille 53. Rennes, du coup, est 3e, 52 points.
Voilà.
On peut se réjouir, hein, Jérémy. Et puis, du coup, Nice 50 points, Strasbourg 48.
Lille 46.
Et puis après,
on est neuf.
Avec Zeko, avec Lyon. Hein. Lyon
on a oublié l'Europe.
Tu veux en parler un tout petit peu
c'est... Non, mais enfin.
T'as le droit de dire non.
Non, mais franchement, il n'y a rien à dire parce que tout ce qu'ils mettent en Ligue Europa, qu'on a vu contre Porto notamment, c'est totalement ce qu'ils ne mettent pas en Ligue 1, c'est-à-dire de l'envie, de l'engagement et puis de la réussite. Peut-être aussi ça joue forcément un peu, ça, tout ça. Mais ça manque de panache, ça manque de testostérone, ça manque d'envie. Ils jouent tranquille alors que faut regarder le classement, les gars, il faut s'y mettre un peu.
Mais du coup, sur ces fins de saison, est-ce qu'ils ont choisi leur position ou pas?
Bon, moi, je pense qu'actuellement, ils savent très bien que ça va être compliqué de jouer la Ligue des Champions et que la seule moyen, c'est de gagner par la Ligue Europa. C'est pour ça qu'ils donnent tout en Ligue Europa.
Je pense que c'est un petit message qu'ils envoient au président Aulas qui peut faire jouer l'Europa League.
Exactement.
Il reste 9 matchs.
Ah, mais c'est pas fini, bien sûr, mais bon.
Bon, on n'a pas le temps de parler des autres championnats. Par contre, cette semaine, c'est les barrages de Coupe du Monde.
C'est ça.
Évidemment, avec un Pavard incertain avec le Covid.
Non, c'est les matchs amicaux pour la France.
Il n'y a pas entre le Cameroun et Côte d'Ivoire, et l'Afrique du Sud. Et on commence vendredi.
Jeudi, les barrages en Europe. Mardi, les finales.
Avec notamment le très attendu Portugal-Italie qui devrait les deux devraient se qualifier.
Avec le retrait de la Russie et le probable non-participation de l'Ukraine qui devait jouer l'Écosse, ça modifie un peu le truc puisque la Pologne est qualifiée directement et l'Écosse devrait aussi être qualifiée directement. Donc il va rester que 2 matchs pour les...
Exactement.
Ça.
Ouais, on vous en reparle lundi prochain. Exactement. Puisque ça y est, Money Time, c'est déjà terminé, il est 20h. Place à Passage en Force pour parler de NBA. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Salut à tous.
Bonne soirée à tous.
Salut à tous. Bonne soirée.